Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Oui, avec une centaine de milliards d'euros, en tout cas c'était cette somme nécessaire estimée par les autorités irakiennes avant cette conférence dont vous parliez, Jacques, qui se tient depuis lundi au Koweït. On en parle avec vous, Hocham Daoud, bonjour.
Bonjour.
Chercheur au CNRS, ancien directeur de l'IFPO à Erbil, au Kurdistan irakien. Merci d'être au téléphone. Alors, des représentants de plus de 70 pays, plus de 2000 hommes d'affaires pour financer les infrastructures sanitaires et économiques des 38 millions d'Irakiens. Inutile de dire que les besoins sont immenses, hein, après 14 années de guerre. Lundi, les ONG ont déjà annoncé 330 millions de dollars d'aide d'urgence. Hier, c'était les entreprises. Aujourd'hui, dernier jour, ce sont les États. Alors, pour obtenir des investissement massif, le gouvernement irakien doit promettre une certaine sécurité juridique et surtout une stabilité politique. Et l'urgence, Hocham Daoud, est d'autant plus grande que le pays se trouve à 3 mois d'élections cruciales, première législative d'après-guerre, qui doivent confirmer ou non le premier ministre Al-Abadi. Ce chiite, jusqu'ici soutenu par la communauté internationale, dont l'Iran, victorieux contre l'EI, il doit maintenant reconstruire donc politiquement le pays, c'est-à-dire deux choses, restaurer la confiance entre la population et l'État dans ce 10e pays le plus corrompu au monde, et puis réconcilier surtout les communautés entre elles, tribus sunnites, chiites pro-Iran et chiites nationalistes, kurdes, yézidis, tous pour le moins méfiants. Alors reconstruire, réconcilier, c'est un peu le pari. Est-ce vraiment le moment? Hocham Daoud, il y a d'abord deux urgences à court terme, 23 milliards demandés par le gouvernement irakien, et puis arriver aux élections du 12 mai, tout cela sans heurts. Est-ce que ça vous semble possible du moins?
Ça va être difficile, mais on peut mal imaginer qu'on peut faire l'une sans l'autre. Déjà, il faut réunir les Irakiens. Il faut distribuer la responsabilité, disons, trouver un système inclusif. Et puis, faire participer la périphérie de la capitale dans les affaires du pays. Sous-entendu, la sunnite, le Kurde qui se trouve au nord après leur malheureux référendum, etc. Bon, après Daesh, ça devient urgent pour trouver un système qui rassemble. Est-ce que Al-Abadi est à l'auteur de cette tâche? Jusqu'à maintenant, l'homme a montré qu'il était capable de dialoguer et discuter avec les différents belligérants. Maintenant, nous sommes à 2 mois, 3 mois des élections. Les élections, ça veut dire tension aussi, ça veut dire de programmes différents, des fois antagonistes, ça veut dire aussi l'implication des pays de la région. Donc c'est l'art de M. Al-Abadi de montrer qu'il est capable d'aller au-delà, de jouer un peu plus irakien, peut-être un peu moins chiite, et d'envoyer des signaux à la communauté internationale que s'il s'engage dans la reconstruction de l'Irak, il y a déjà un terrain politique préparé.
Alors on va parler de cet art de la conciliation justement. Si on s'attache juste à cette conférence dont on n'a pas encore les résultats définitifs, puisque les États, c'est aujourd'hui, n'ont pas encore apporté leur contribution, à quel point est-ce qu'il vous semble capable aujourd'hui sur la scène internationale de donner des gages de stabilité, de sécurité à Al-Abadi? On voit qu'il y a quand même pas mal de projets, entre 150 et 200 qui ont été annoncés, certains très importants, et notamment des projets pétroliers. On sait que le gouvernement irakien mise beaucoup là-dessus.
En effet, bon, le gouvernement irakien il doit fournir à la communauté internationale au moins 2 choses. La capacité de gérer les affaires économiques, politiques, locales, à l'intérieur. Aussi adopter un système qui peut déléguer, c'est-à-dire décentralisation au niveau de Provence, donner de l'air un peu à l'économie, créer une situation propice pour le marché. Surtout fournir des capacités de gestion au niveau économique, au niveau étatique, bureaucratie dans le bon sens des termes. Et dernièrement, un peu amoindrir le poids écrasant de la corruption qui fait peur à tout le monde s'investir en Irak. Donc, des gens, ils veulent venir, veulent verser des milliards, mais est-ce que ces milliards-là vont aller dans la bonne direction? Est-ce qu'on peut reconstruire des choses ou, comme on l'a vu depuis 14 ans, ça va disparaître dans le sable de la corruption à l'intérieur d'Irak? Je rappelle quand même, en 13 ans, quelques 450 milliards de dollars a été détourné par la corruption. C'est une somme colossale.
Et précisément, depuis ce qui avait été annoncé, parce qu'il y a eu des promesses gouvernementales pour mettre fin à cette corruption, là on voit le gouvernement irakien qui annonce plein de mesures d'exemption de taxes, d'impôts, mais sur le plan de la sécurité des investissements et de cette question de la corruption, est-ce que le travail a été fait aujourd'hui?
Pas vraiment. Je prends un seul cas. M. Al-Abadi, il dit, j'ai stabilisé le pays. J'ai vaincu Daesh. J'essaie de trouver une forme de communication avec le Kurde. J'ai gagné, arraché une crédibilité, une reconnaissance au niveau régional et international, mais il me reste la guerre de contre la corruption. Or, la première liste électorale qui est établie, qui est fournie, il a pris quasiment les mêmes candidats que la plupart d'entre eux. Ils sont un peu soupçonnés par le détournement de la corruption. Et il n'a même pas eu le temps d'échanger certains représentants corrompus par d'autres. C'est là où c'est quand même le bas blesse. Et l'opinion, l'autorité religieuse, la communauté internationale, quand même, ils ont rappelé M. Abadi à ses engagements et cette alliance qu'il voulait lui proposer a duré quand même 10 heures, a été défaite. Nous entendons maintenant qu'est-ce qu'il va proposer la semaine et le mois à venir.
Parce qu'il y a eu quand même, je crois, 21 ans de prison pour un ancien ministre du commerce accusé de corruption là au début du mois de février. Ça vous semblait une mesure, disons, unique dans le paysage judiciaire actuel ?
C'est unique, rare et certainement insuffisant. Il faut commencer par la justice. Il faut commencer par assainir les institutions les plus importantes. Il faut commencer par le choix de ministres qui sont à l'auteur de la tâche. C'est-à-dire des gens capables de gérer. Ils ont des pouvoirs, ils peuvent communiquer, gérer leur ministère, utiliser de manière transparente l'argent fourni par l'exportation de pétrole et par la communauté internationale. Il faut tabler aussi sur des choses essentielles. Qu'est-ce que ça veut dire en reconstruction? Qu'est-ce que ça veut dire l'infrastructure? Qu'est-ce que ça veut dire l'investissement dans la durée? Ça veut dire l'école, les hôpitaux, etc. Dans tout cela, c'est vrai, l'Irak est en retard de manière criante. Et M. Abadi, s'ils veulent gagner la crédibilité sur le plan de l'économie, sur le plan de reconstruction sociétale et, je dirais, politique intérieure et nationale de l'Irak, il faut quand même aller dans ce sens-là et de manière courageuse.
Bon, en tout cas, on voit, comme je disais, qu'il y a un certain nombre de projets, dont 16 de plus de 500 millions d'euros qui ont été promis, notamment un métro pour Bagdad, une ligne de chemin de fer Bagdad-Kirkouk. Si on s'intéresse à la stabilité politique, comme vous l'avez dit, effectivement, il y a eu une certaine victoire de la part de El Abadi face aux autorités kurdes. Aujourd'hui, il y a une réconciliation, un certain retour à la normale. Là aussi, c'est une victoire politique, on pourrait dire, après les grandes tensions de la fin de l'année dernière, le référendum.
Disons la communication s'apprend entre les deux capitales, la capitale fédérale et régionale. Des hommes politiques commencent un peu à se trouver autour de la table. Ceux qui étaient beaucoup plus protagonistes, ils sont mis de côté, comme M. Barzani et d'autres.
Oui, les têtes ont changé.
Il est vrai que le référendum a été désavoué non seulement par les Irakiens, au-delà de la population kurde, mais par les pays de la région et la communauté internationale. Le moment n'était pas encore propice et venu pour le Kurde d'avoir leur indépendance. La région est secouée, nous sommes à 2 jours d'après Daesh, la guerre plane en Syrie, il y a des risques de débordement. Est-ce que c'était le moment qu'on défait pour faire une autre carte géopolitique de la région? Donc, c'était pas le choix. Deuxièmement, les Kurdes eux-mêmes, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Donc, il y avait des conflits, des tensions à l'intérieur de la maison kurde, la torchon brûle entre Soleimani et Erbil, etc. Et puis, il y a l'ingérence de l'Iran, de la Turquie, etc., dans la région du Kurdistan. Et finalement, il y a l'échec économique au nord de l'Irak. Tout cela faisait que le référendum, ça a été un peu un coup d'épée dans l'eau. C'est vrai, ça répondait un peu à l'aspiration légitime de la population kurde, mais le moment, c'était mal choisi. Ce qui a donné à Abadi un peu plus de légitimité pour dire qu'il est garant de l'Irak. Mais une fois qu'il est garant de l'Irak, il faut qu'il négocie avec les Kurdes. Jusqu'à maintenant, il n'a pas fait d'une manière équitable. Il a essayé d'imposer, de dicter. Or, depuis quelques jours, on voit quand même, peut-être, là, on peut sortir aussi la pression de la communauté internationale, de l'Europe, pour dire dialogue, ça veut dire écouter, s'écouter, et à la fois repartir la responsabilité, accepter que nous sommes tous du même pays, il n'y a pas un citoyen de premier rang et deuxième rang, donc il faut créer la confiance. La confiance manque entre Erbil et Bagdad.
Et en tout cas, on voit une tentative d'ouverture ou de conciliation. Comme vous le dites, dernière chose, alors, pour ces fameuses élections législatives et locales, je crois, du 12 mai, est-ce que El Abadi vous semble plutôt en position de force dans la mesure où, si j'ai bien compris, il a réussi à rallier à sa liste certaines de ces fameuses milices chiites, Hashd al-Shaabi, ou alors est-ce qu'il est plutôt très contesté parce qu'il y a des listes de son parti d'Awa qui s'oppose frontalement à lui et parce qu'il a déjà perdu des soutiens, dit-on, des listes dissidentes?
La position d'Abadi est aujourd'hui délicate. Il voulait faire une liste regroupant à l'intérieur et la milice chiite et des représentants sunnites. et de la société civile et qui mettent à la tête de cette liste-là comme le vainqueur, le libérateur de pays. Or, cette liste-là a eu une durée de 10 heures ou 15 heures et a été défaite plus tard. Maintenant, Abadi, il se trouve avec quelques représentants. Il n'a pas tout à fait toute la chance de son côté, mais il est bien positionné. Il est accepté par les pays de la région. Peut-être l'Iran pose quelques conditions et difficultés. Et par la communauté internationale, on le considère le moins mal.
Et puis on verra alors, ce test lors des élections du 12 mai, élections législatives mais aussi locales apparemment. En tout cas, merci beaucoup pour aujourd'hui, Hocham Daoud, chercheur CNRS, ancien directeur de l'IFPO à Erbil. Les informations et vidéos, bien sûr, sur franceculture.fr, la page internet des enjeux et le fil Twitter. Demain, il sera question de stabilité aussi, une crise politique dont on a parlé au Togo, qui semble désormais sous contrôle étroit de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. C'est assez nouveau.